bonjour, bienvenue dans notre émission Parlons Foot 97.9 FM sur Fréquencier. Bonjour, je suis accompagné de Dylan et Enzo, bonjour.
Bonjour.
Alors au sommaire, on va parler des Bleus, des qualifications barrage à l'Euro, de la Ligue 1 avec Hervé Renard, avec un coup de gueule commun tous les deux, de la Ligue 2 avec le licenciement de l'entraîneur du Havre, de la Coupe de France, et on va commencer avec les Bleus, dit une question, sans Benzema et Valbuena, mais avec Gignac et Ben Arfa, la France peut-elle battre l'Allemagne?
Sans Benzema, oui, elle peut battre l'Allemagne, parce que Benzema, c'est pas le joueur le plus important, il est très irrégulier dans ses performances. Gignac fait un bon début de saison au Mexique, donc oui, ils peuvent battre l'Allemagne sans Benzema. Par contre, sans Valbuena, la question mérite d'être posée, parce que Valbuena, c'est le joueur qui a joué le plus sous l'ère Didier Deschamps. Il y a eu seulement deux matchs, je crois, où il n'a pas été titularisé en tout et pour tout. Et donc là, ça va faire 4 à la fin donc, de cette trêve internationale, puisqu'il n'est pas sélectionné. C'est un joueur important dans l'effectif des Bleus, et notamment sur coup de pied arrêté et les coups francs.
Ça, après, on peut le remplacer. Il y a Cabaye qui s'est bien étiré.
Pendant ce temps-là, ça faisait depuis 2007 qu'on n'avait pas marqué de coup franc. C'est Valbuena qui l'a mis.
Et est-ce que Ben Arfa peut le remplacer?
Ben Arfa, on va bien voir.
Intrinsèquement, Ben Arfa est aussi bon que Valbuena. Après, c'est pareil, il est régulier.
C'est pas le même poste non plus. Mais par contre, il y a Kingsley Coman aussi en attaque qui a envie de tout casser, comme il dit aux journalistes. Donc, ça sera un joueur à suivre. Durant les rencontres contre l'Allemagne et contre l'Angleterre. Maintenant, Valbuena laisse à désirer sur son début de saison à Lyon quand même, qui est
moyen,
un peu en dessous de ce qu'on attendait.
Il s'entend pas vraiment avec la Lacazette, ce qui ne lui permet pas de
s'exprimer. Il y a un problème général à l'Olympique Lyonnais.
Est-ce que si les Bleus font de bons matchs de préparation contre l'Allemagne et l'Angleterre, peuvent être favoris à l'Euro?
Ça l'est, ils le sont.
Ils sont.
L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique.
Je considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de favoris pour l'Euro, si ce n'est qu'il n'y a que des outsiders. L'équipe qui forcément est un poil favori au-dessus des autres, c'est la France, parce qu'elle jouera à domicile.
T'oublies la Belgique. Enfin,
l'Allemagne qui est championne du monde aussi.
L'Allemagne, oui, mais c'est encore autre chose. Hein, quand on a vu les phases de poule de l'Allemagne, qui sont très en dessous.
Et la Belgique.
La Belgique, c'est vrai qu'elle est son première mondiale. Maintenant, c'est un jeu qu'il faut bien prendre dès le début du match. Pour moi, la Belgique, c'est plus facile à battre que l'Allemagne lors de la Coupe du Monde ou que d'autres équipes qui étaient en haut du classement FIFA.
C'est l'Angleterre qu'on attendra aussi, parce qu'ils ont fait une qualification parfaite avec 10 matchs, 10 victoires, qu'on fait une Coupe du Monde catastrophique, donc on aimerait au moins les voir haut à l'Euro.
Justement, ce qui va être intéressant de voir contre l'équipe de France, c'est de voir quel est le réel niveau de l'Angleterre, clairement, puisque durant les phases de poule.
Je pense qu'ils sont un peu sous-estimés, moi, les Anglais.
Ils sont tombés sur une poule facile aussi. Hein. La Suisse était le seul adversaire.
Moi, je les considère surestimés, justement. Parce que pour moi, ils ont une poule trop simple. Ils ont eu une poule trop simple.
Ouais, mais justement, on parle pas beaucoup d'eux. Ils sont discrets.
En même temps, il n'y a pas de quoi parler d'eux.
Quand on tombe dans la poule de Saint-Marin, c'est quand même une poule facile. Contrairement à l'Allemagne qui est quand même tombée sur la Pologne, l'Écosse et l'Irlande.
Et trois fois d'affilée.
Et trois fois d'affilée.
C'est un pur hasard.
Ouais, mais bon, c'est à chaque fois les mêmes phases de groupe. Bon, ça sera intéressant à voir, puisque l'équipe anglaise, durant les deux prochaines compétitions, notamment donc l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, aura un rôle important à jouer durant ces deux compétitions, puisqu'on reproche à l'Angleterre justement d'avoir un championnat 5 étoiles et d'avoir une sélection nationale
c'est comme le rugby en France,
qui ne vaut pas le coup. Donc,
on a le meilleur championnat en France au niveau du rugby, et au niveau de la sélection, c'est pas ça.
Donc voilà, ce sera intéressant à voir. En tout cas, le match de mercredi sera peut-être même plus intéressant que celui de demain.
De demain.
Ouais.
Mais l'Allemagne qui se fera sans Reus et Götze, Joachim Löw essaiera de mettre son équipe type, avec Neuer qui avait un problème à la main, qui a l'air d'aller mieux.
Il y a un gardien qui a été sélectionné, Kevin Trapp qui a été sélectionné aussi.
Vu son début de saison avec Paris, s'il le met dans les buts,
c'est un peu étonnant qu'il soit sélectionné.
Ouais, non, tu peux voir
un bon début de saison.
Juger un gardien sur
parce que je regarde le championnat allemand, la Bundesliga, et il y a beaucoup de gardiens allemands qui font des grosses performances, des plus grosses performances que Kevin Trapp. Hein. Ils ont certainement aussi plus de travail que Kevin Trapp. Et le peu de travail que Kevin Trapp a, il a du mal quand même. Hein.
Oui, mais tu peux pas le juger sur deux ou trois boulettes. Contre Marseille, ils sauvent Paris.
Oui, mais c'est le problème récurrent du Paris Saint-Germain, c'est qu'on dit qu'on prend un nouveau gardien pour remplacer Sirigu parce qu'il enchaînait les boulettes la saison passée, et que finalement on retrouve le même. Maintenant, je ne le juge pas sur trois boulettes, mais au vu du début de saison, il y a à mon avis des gardiens en Bundesliga qui méritent plus leur place que lui, pour l'instant dans la sélection allemande. Notamment Ter Stegen
avec le Barça qui n'est pas sélectionné.
Qui en ce moment fait de grosses performances.
Et non, mais la sélection allemande est un peu bizarre, je trouve, quand on voit qu'il y a Ziller de Hanovre, inconnu, on a Ter Stegen au Barça qui n'est pas sélectionné.
Bah, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on teste.
Ziller, ça fait un moment qu'il est là.
Oui.
À Coupe du Monde, il était là.
On a un défaut en France, c'est qu'on fait jouer que ceux qui sont connus. Et on a du mal à faire jouer ceux des clubs qui pourtant sont des icônes de ces clubs et qui pourraient, pourquoi pas, regarder Danzé à Rennes. C'est le pilier, c'est le défenseur. C'est un exemple.
Il est devenu remplaçant.
C'est un exemple. Bon, maintenant, il est remplaçant cette saison, c'est vrai. Mais avant, il aurait pu être sélectionné. C'était un des...
Comme Franck Beria.
Voilà. Enfin, Beria, c'est encore autre chose.
Et ce soir, il y a aussi les barrages de l'Euro. Et à la fin de ces barrages, on connaîtra tous les qualifiés. Et ce soir, Norvège-Hongrie. Deux équipes quand même qui ont montré de bonnes qualifications. Demain, Bosnie-Irlande. Ukraine-Slovénie et Suède-Danemark. Le derby scandinave qui est peut-être le plus serré dans ces barrages.
Incontestablement. Et en plus, il y a un Zlatan Ibrahimovic qui a à cœur de gagner.
De gagner l'Euro carrément. Carrément. L'Euro,
ouais,
carrément.
Il va avoir du mal.
Ils vont avoir du mal. Très certainement, ils ne la remporteront pas. Puisque
la Suède s'appuie quand même sur Ibrahimovic.
En partie.
Enfin, c'est encore différent que comme à chaque fois on faisait la comparaison avec le Portugal. Hein. C'est que Ibrahimovic a aussi besoin de ses coéquipiers. Hein. On le sait. Parce que, enfin, il a de plus en plus besoin de ses coéquipiers. C'est pareil au Paris Saint-Germain. Voilà, le niveau baisse. Et s'il ne reçoit pas les ballons là où il faut, quand il faut, il a un peu plus de difficultés. Ça n'empêche qu'il a remporté son 10e ballon d'or suédois cette semaine.
Le 9e d'affilée.
Voilà.
En tout cas, il n'y a pas vraiment de concurrence en plus en Suède.
Il y avait Kim Kalström quand même avant.
Et la Hongrie peut battre la Norvège en Norvège et se qualifier pour l'Euro.
En Norvège, je ne sais pas, mais je pense quand même que la Hongrie va se qualifier.
Elle peut faire un gros match, du moins.
Ça fait 43 ans qu'ils ne sont pas qualifiés pour l'Euro.
Ouais, mais ça fait deux qualifications, donc en à la Coupe du Monde 2014, ils avaient failli aussi se qualifier. Ça fait deux qualifications, donc ouais, pour moi, ils ont clairement leur chance pour se qualifier.
Oh, oui, dans cette phase de groupe, le Norvège, c'est pas non plus la plus grosse équipe qu'il y a, c'est pas une équipe
qui a quand même bousculé l'Italie dans ce groupe.
Ouais, bon, on sait que l'Italie, il y a toujours des petits moments où ça a du mal. Ils sont irréguliers aussi, les Italiens. C'est comme les Néerlandais qui ne se sont pas qualifiés. Pour moi, la Hongrie peut se qualifier, oui.
Et on va faire une petite pause avant de parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Nous revoilà sur Fréquencier dans l'émission Parlons Foot. Maintenant, on va parler de la Ligue 1 avec le licenciement hier d'Hervé Renard. Une surprise.
Oui.
Une grosse surprise. Je te laisse commencer, Enzo.
Alors, je trouve ça inadmissible de la part du LOSC d'avoir viré Hervé Renard. Parce que pour moi, c'était l'homme de la situation malgré les résultats.
7 buts en 13 matchs quand même. Hein. La deuxième pire attaque de Ligue 1.
13 points en 13 matchs. Donc, je vois pas ce qu'il y a d'alarmant.
Un point d'avance sur la zone rouge.
Un point par match.
Mais un point d'avance sur la zone rouge quand même.
Voilà, ils ont fait un recrutement en attaque qui certes n'a pas été exceptionnel. Je pense que cet hiver ils se seraient renforcés. Renard aurait recruté des Mayuka, des Ambiens comme il l'a fait avec Sochaux. Et il aurait remonté la pente. Et je trouve ça inadmissible parce que pour moi c'était l'homme de la situation.
Bah moi je trouve ça aussi inadmissible. J'étais un peu ils en parlaient dans la matinée, mais bon, c'est difficile à croire de se dire
ce n'était que des rumeurs.
Voilà, donc c'était difficile à croire que Hervé Renard allait être licencié du LOSC. Moi je trouve ça inadmissible parce que vous enlevez Girard, vous mettez Renard, c'est la recrue de l'été en Ligue 1. Hein, c'est l'entraîneur clairement qui a le charisme, qui fait des choses exceptionnelles. Il arrive à Lille, il est très franc avec ses joueurs, c'est un gars qui travaille. Le recrutement dans l'ensemble est plutôt satisfaisant, sauf en attaque où il manque ce Salomon Kalou qui a manqué l'année dernière. Et puis ce début de saison est un peu timide de la part du LOSC, c'est vrai.
Il faut qu'il se trouve.
Mais bon,
il y a eu des changements dans cette équipe.
Il y a eu beaucoup de changements, comme tu dis. Donc il faut laisser le temps au temps et mettre les choses en place. Faut pas oublier. Alors maintenant, ils veulent enlever Renard. Ok. Mais mettre qui à la place? Alors,
laisser Patrick Collot, l'entraîneur adjoint, jusqu'à la fin de saison, comme l'avait fait Ghislain Printemps, qui avait sauvé Bastia, prendre un autre entraîneur.
C'est pas une solution de laisser l'entraîneur adjoint quand vous avez quelqu'un comme Hervé Renard qui était à la tête du club.
Alors prendre qui? Gourcuff, Antonetti, Hans.
On parle de Gourcuff, Antonetti, Hans, Duprat aussi.
Casanova, entraîneur de Toulouse.
Antonetti, alors déjà, il y a un gros problème au LOSC. Vous prenez Girard. Girard, champion de France avec Montpellier. Il arrive à Lille. Il a des difficultés, il n'arrive pas à faire quelque chose avec ses joueurs.
C'est pas les entraîneurs le problème, c'est les joueurs.
Vous prenez Renard, champion d'Afrique des Nations avec la Zambie, il a failli maintenir et réaliser l'exploit avec Sochaux, et il est champion d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Vous avez un entraîneur qui a un beau palmarès au vu de ses compétitions remportées. Il n'arrive pas à faire quelque chose avec ses joueurs, et il arrive même à y avoir des échauffourées, notamment entre Sivelli et Boufal, dû à un petit pont en trop de Boufal sur Sivelli. On peut comprendre Sivelli. Et ça ne fonctionne pas encore. Alors vous allez prendre qui? Vous allez prendre Antonetti? Je pense qu'il va finir par perdre patience, parce qu'il a été à Nice. Bon, Nice, ça joue encore à peu près bien. Il a été à Rennes. Clairement, Rennes, c'est un gars qui pousse des bons coups de gueule. Il a jamais réussi à réveiller les Rennais. Alors, c'est pas en prenant Antonetti à Lille que ça va avancer, puisqu'il n'arrivera pas à réveiller les Lillois non plus. Aujourd'hui, il y a un réel problème dans l'effectif. C'est que si les joueurs n'ont pas décidé de travailler et de jouer, Lille, moi je le dis, descendra en Ligue 2 la saison prochaine, peu importe l'entraîneur.
Toi qui les voyais finir deuxième cette année.
Avec Hervé Renard. Non, je les voyais pas terminer deuxième, je les voyais terminer en qualification pour l'Europa League. Malheureusement, sans Hervé Renard,
c'est impossible.
C'est impossible.
Vous dites que c'est à cause de l'effectif. Il y a Mavouba qui a dit quand même à la presse que le 3-4-3, ça n'allait pas. Donc c'était un problème. Pour eux, c'est un problème d'entraîneur.
C'est le problème d'effectif, voilà. Aujourd'hui, si les joueurs ne sont pas capables d'écouter l'entraîneur et de laisser le temps au temps, parce que clairement eux-mêmes ne sont pas d'accord. S'il y a un entraîneur, s'il y a des mauvais résultats, c'est l'entraîneur qui les assume, mais les joueurs doivent faire leur travail, ils sont payés pour.
Souvenez-vous, la dernière fois que Lille a été champion de France, c'était en 4-3-3, donc je pense que c'est pas le problème du 4-3-3. Mavouba était là, je pense que c'est plus des problèmes de joueurs, avec des joueurs qui jouent que pour eux et qui jouent pas pour le collectif.
On a un problème avec Mavouba, c'est que cette saison il devait pas être là, donc il aurait dû partir clairement. Au final, on pourrait retrouver un Patrick Evra. Finalement, il y a un Patrick Evra à Lille. Quelqu'un qui veut diriger l'effectif, alors qu'il y a un entraîneur qui était là pour ça.
Et vous avez dit en début, c'était des rumeurs. Michel Seydoux, le président de Lille, a-t-il craqué sur ces rumeurs pour le licencier?
Je pense pas. Je pense que la décision était prise.
Apparemment, c'était à l'amiable. Ah bon, hein.
Moi, je pense que la décision, il n'y a pas que Michel Seydoux qui l'a pris. Il y a aussi les joueurs qui ont certainement mis leur grain de sable dans la décision. Puisqu'on le sait qu'à Lille, il y a le Conseil des Sages avec plusieurs joueurs qui sont dans ce conseil et qui donnent leur avis pour faire évoluer le club. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mickaël Landreau était parti de Lille, hein, sur ses dernières années de contrat. Donc voilà, moi, je pense que oui, la rumeur n'a fait que confirmer le choix de Michel Seydoux. Et puis je pense que Hervé Renard n'a pas rétorqué sur le choix, puisqu'il s'est rendu compte et s'est mis à l'évidence que cette équipe elle ne pourra pas avancer cette saison. C'était le risque, hein, de mettre Hervé Renard à Lille en début de saison. Soit ça marche, et donc comme je l'avais dit, je les voyais finir 6e, soit ça casse parce qu'il n'arrive pas à avoir un changement de dynamique, et dans ce cas-là, il faut revoir tout.
Et quel avenir pour Hervé Renard? Continuer en club où il a failli sauver Sochaux,
ce
et il s'est fait licencier Lille, ou reprendre une équipe nationale en Afrique notamment.
Ce sera pour moi une sélection en Afrique. C'est là où il réussit le mieux. Il a duré là-bas.
Il y a une chose. Enfin, moi, je pense que je le vois
là-bas.
Il a besoin pour être cet entraîneur qui soit considéré comme un grand entraîneur. Bon, pas forcément comme les Mourinho ou j'en passe, hein, de ces autres coachs, mais pour être considéré comme un entraîneur influent, il a besoin de faire quelque chose dans un club. Moi, je le vois bien. Dans un autre club, alors où?
Dans un autre pays.
Bonne question.
Dans un autre pays.
Pourquoi pas
en Angleterre.
Prendre un club avec un projet ambitieux dans une deuxième division, parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui a la patience et qui aime construire sur le long terme. Alors pourquoi pas revenir à Sochaux? Maintenant, il y a un nouvel entraîneur qui est là.
Ouais, mais ce serait une belle histoire quand même.
Ce serait une belle histoire. Maintenant, Albert Cartier, ils l'ont fait venir. C'est un entraîneur qui a déjà vécu une montée. C'est sur le long terme aussi.
Il
y a un gros problème de Sochaux, c'est qu'il y a aussi ce changement de dynamique. On tourne la page Peugeot, ce qui veut dire que Sochaux, qui a été pendant plus de 60...
Enfin, quasiment fait toute...
quasiment toute depuis sa création, ouais. Donc en Ligue 1, c'est fini. Donc Sochaux d'avant, le Sochaux d'avant n'existe plus depuis cette année.
Il n'y a plus d'âme.
Il y a changement d'écusson, changement de sponsor, changement d'actionnaire.
Les supporters au club.
Voilà. Et donc, pour revenir sur Hervé Renard, on parle d'une sélection nationale. Il est annoncé chez les Fenech, donc
en
Algérie.
Puisque
Christian Gourcuff, pourtant, qui est un entraîneur, il faut lui laisser du temps et on sait que les résultats vont venir. Hein. Mais bon, ils n'ont pas l'air d'être très patients et donc Gourcuff serait plutôt amené à revenir en Ligue 1. Donc deux clubs lui étaient donnés. Rennes, la rumeur, moi j'y crois pas du tout parce que il était à Lorient, il voulait pas que Gourcuff aille à Rennes, donc il ira pas à Rennes. Et puis Lille, ce serait une grave erreur de sa part d'aller à Lille parce que ça ne changera rien du tout non plus. Et ce ne serait que, bon, finalement, ça deviendrait un entraîneur anonyme, je pense, à la fin de son aventure à Lille. En tout cas, Hervé Renard est sans doute proche des Fenech parce que ça l'a peut-être aussi incité à partir, je pense.
Alors,
et donc il partirait pour une troisième Coupe d'Afrique des Nations.
Qui pourra
une troisième remportée.
Voilà.
Ouais, maintenant, on va également passer à la Ligue 2 où il y a eu un autre licenciement d'entraîneur, pas pour les mêmes raisons puisque c'est l'entraîneur du Havre, Thierry Goudet, qui a été licencié. Le Havre qui est quand même quatrième de Ligue 2.
Depuis quelques matchs, c'est Christophe Revaux hein, qui mène l'équipe.
Et qui a été licencié pour faute grave que tu vas nous expliquer, Dylan.
Alors voilà.
Faute grave entre guillemets.
Faute grave entre guillemets, voilà. Oui. Donc trois fautes graves. La première, donc ne pas avoir fait jouer Le Bihan lorsqu'il était en train de signer, enfin lorsqu'ils étaient en pourparlers avec Nice. Donc,
ça ne l'aurait pas fait changer d'avis à Le Bihan.
Ça ne l'aurait pas fait changer d'avis, mais donc le président n'a pas apprécié qu'il le mette en tribune avant son départ à Nice. Ensuite, la deuxième raison, c'est de ne pas avoir averti la direction qu'il ne mettrait pas une équipe type contre le CA Bastia en Coupe de la Ligue, où on se rappelle que le Havre s'était fait éliminer 2-1. Et la troisième raison, c'est de ne pas avoir donné de consigne à ses attaquants lors de la victoire 4-0 à Lens.
C'est quand même le comble, hein, de ne pas donner de consignes.
Là,
mettre une volée
la cerise sur le gâteau, la dernière raison du licenciement. Et en plus, c'est qu'il le poursuive au prud'homme.
C'est pitoyable quand même. Parce qu'il voulait vraiment le partir.
C'est minable.
Il vraiment
je pense que c'était un prétexte pour faire venir
Bob Bradley.
Mais bon, quel intérêt de l'avoir fait prolonger de 2 ans et demi.
Bob Bradley, ancien entraîneur
de la
sélection américaine et de l'Égypte.
Et qui fera sans doute, pour moi, monter le Havre. Qui ça, part vers un ambitieux projet.
Très bon entraîneur.
J'avais une question pour toi, Dylan. Est-ce que le changement d'entraîneur au Havre, qui est quand même 4ème Ligue 2, va les faire dégringoler au classement?
Non. La seule chose qui peut les faire dégringoler au classement, c'est le fait que ce soit un entraîneur étranger. Donc, c'est-à-dire des problèmes de communication au départ. Alors, après, avec le temps, forcément, ça va s'améliorer. Mais ça peut être un problème de communication et de culture. Parce qu'on sait que les États-Unis n'ont pas encore la culture foot que nous avons en Europe. Ça peut être un problème, mais ça peut être aussi un point positif, puisque finalement ça donnerait une nouvelle culture dans un club, une culture différente des autres, et qui finalement pourrait carrément les propulser en Ligue 1 dès cette saison.
Le Havre a l'effectif pour remonter en Ligue 1 malgré le départ de Le Bihan?
Il avait un effectif très intéressant au début de saison, même en perdant Le Bihan. Donc pour moi, oui, il faudra recruter quand même un ou deux joueurs parce qu'il y a des postes où c'est assez incomplet. Et le Havre peut être une équipe qui monte. Maintenant, je trouve que le jeu mené par les Havrais laisse à désirer.
Ouais, en Ligue 2, on sait jamais qui c'est qui va monter, qui c'est qui va descendre. Voilà.
Donc, les qui fait ce charme de ce championnat.
Oui, pour moi, encore, les 10-15 premiers peuvent encore monter. Hein, c'est...
Bon, je serais plus vers les 12-13.
Ouais, jusqu'à Laval, quoi.
Ah, y a même encore une ou deux équipes derrière qui peuvent encore, monter.
C'est un championnat qui est indécis.
Ouais.
Maintenant, on va passer à la Coupe de France qui est.
Pour terminer, c'est que cette année, on a l'avantage d'avoir des équipes qu'on attendait à jouer la montée. Et on les voit dans le bas de classement. Je fais allusion à Lens et à Sochaux, et voire même Ajaccio qui devait viser le milieu de tableau.
On va faire une petite pause avant de passer à la Coupe de France et aux Ligues étrangères. On va maintenant passer à la Coupe de France. Avec des équipes sartoises qui n'ont pas été gâtées, l'Assus qui a arrêté de Laval en club de Ligue 2. L'Assus peut le faire.
Vas-y Enzo.
La Suisse peut le faire et ils l'ont bien fait. Ils avaient réussi à tenir en échec Lyon une petite demi-heure.
Encore une minute, oui.
Il y a quelques années. Donc Laval est inférieur à Lyon, donc pour moi, oui, ils peuvent le faire.
Oui, ils peuvent le faire. Parce que Laval n'est pas une équipe de Coupe. Enfin, elle a été une équipe de Coupe de France il y a quelques années. Donc dans leur
Coupe d'Europe,
début.
Encore quelques.
Voilà, début des années 2000. Décennies. Mais bon, ça s'est un peu perdu à Laval pour l'instant. Oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire clairement. Par contre, il y a des problèmes pour l'instant, c'est le championnat. Du côté suzerain, c'est un début de championnat catastrophique, une défaite contre Bonchamp dernièrement. Après ce match de Coupe de France, ils vont avoir un match de championnat très important, donc dans le week-end du 21, donc à 20h, ils affrontent le leader La Flèche. Donc s'ils veulent encore espérer monter, ce sera le moment ou jamais. Donc voilà. Maintenant, j'ai regardé un reportage qui est passé sur France 3 cette semaine. C'est une équipe de copains et les équipes de copains peuvent parfois tout renverser. Donc
regarde,
ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble aussi.
Il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, ils auraient pu monter en DRH et l'année suivante ils descendaient.
La Suisse est quand même un effectif qu'elle a depuis longtemps.
Qui est très longtemps et qui est très stable. Hein, c'est l'avantage à la Suisse. Maintenant. Voilà, Laval, ils avaient tenu en échec il y a 4-5 ans. Ils avaient été jusqu'en prolongation, ils s'étaient inclinés seulement 1-0 contre Laval en prolongation. Donc, les Suzerains peuvent toujours
rêver. Exploit possible, et c'est ce qui fait le charme de la Coupe de France.
Il y a aussi un autre club sartois, Saint-Saturnin, lui qui est un club
De Loire-Atlantique, de DH,
oui,
qui était en CFA de l'année dernière.
Qui était en CFA de l'année dernière, Saint-Saturnin, tombeur du Mans, peuvent le faire aussi.
Ils peuvent le faire. Mais je pense qu'ils vont s'incliner.
Moi, je les vois se qualifier.
Pourquoi pas un...
Parce que.
Pourquoi pas deux équipes.
Leur début de championnat n'est pas forcément très bon, mais ils ont réussi à éliminer Le Mans.
Ils ont réussi à éliminer Le Mans, mais ils perdent 4-0 contre la B après. Pourquoi voilà, pas. C'est la Coupe de France, c'est ça. C'est si vous êtes un jour où la chance est avec vous, vous gagnez, ou s'il y a un jour où vous êtes meilleur que l'équipe que vous affrontez. Vous gagnez. Bah eux, ils sont tombés sur un jour contre Le Mans où ils ont été meilleurs que Le Mans et ils ont eu la chance avec eux. Maintenant, est-ce que contre Overall, ce sera différent parce que c'est une équipe de DH, donc de même niveau qu'eux, et que eux aussi se disent qu'ils peuvent se qualifier. Ce sera un match très disputé. C'est pour ça
c'est pour le 8e tour, les 32e.
Pour
le
8e tour.
Oui. Donc il y aura encore un tour après pour le
mois de décembre. Ouais.
Il faudrait pas que les deux équipes soient tous les deux en 32e et rencontrent un club Ligue 1 parce que le même arena pourra pas accueillir 4 équipes. Donc s'il jouerait où?
Bah Laval.
Laval le plus près.
Laval ou Angers.
Tours.
Tours, je ne pense pas. Dû au vétuste stade de la vallée du Cher. Mais oui, Angers ou Laval, je pense, seraient des villes où ce serait possible d'accueillir. Mais pas nécessairement des stades comme cela. Il y a d'autres stades, je pense, peut-être de niveau national ou...
Luçon,
le stade est encore...
Vendée.
Pour survivre,
Caen, c'est pas très loin non plus.
Nantes.
Bon, après Laval, c'est peut-être plus près.
Ils ne sont pas encore en 32e non plus.
Alençon aussi est une ville qui a un stade homologué pour affronter une équipe de Ligue 1. Ils avaient affronté Lorient il y a quelques années. Voilà, c'est de l'organisation quoi. Après, ça dépend aussi quelle équipe de Ligue 1 ils affrontent. Hein. Si c'est pour affronter Toulouse ou Troyes. Ça peut très bien jouer au stade Michel Boyer à la Suze. La difficulté pour les Suzerains, c'était de recevoir à Lyon, où ils savaient très bien que ce serait une grosse influence. Donc, ça dépend aussi de l'équipe qu'ils affrontent.
Oh, si c'est Troyes ou Toulouse, il y aurait une grosse influence.
Par contre,
Saint-Saturnin,
par contre, aurait des difficultés à accueillir chez lui.
Et dernière partie de notre émission, en Angleterre, Aston Villa, avec un changement d'entraîneur, un peu de Steve Sherwood, Rémi Gard. Rémi Gard peut-il sauver Aston Villa?
Oui. Oui. Et il a fait de très bons débuts.
Match nul contre Manchester City.
Ouais, mais c'est pas étonnant parce que City fait des bons matchs contre les grosses équipes et fait des matchs nuls contre les petites. Je prends exemple l'année dernière, Burnley. Ils perdent 2-0 ou 2-1, je ne sais plus, contre Burnley qui est descendu en Championship.
Burnley avait fait des matchs nuls contre plusieurs grosses cylindrées du championnat anglais. Hein. Donc voilà.
Bah merci
Chelsea, faut pas oublier qui s'est incliné de 1-0 face à Stoke City
une fois de plus. Oui.
Mourinho qui est clairement sur un siège éjectable.
Mais soutenu par les supporters.
Mais soutenu par les supporters qui chantent son nom pendant les matchs.
Enfin, ouais. À force de cumuler des festes, Abramovich va finir par lâcher.
Le problème d'Abramovich, c'est que s'il le lâche, il a 50 millions d'euros à donner encore en plus. Hein.
Et Abramovich aurait laissé un sursis à Mourinho jusqu'à janvier. De quoi remonter quand même la pente.
S'ils y arrivent,
bon, ils remonteront pas la pente pour moi, mais ils peuvent encore se maintenir. Il y a des possibilités.
Ça devrait aller.
Ça devrait aller, va savoir. Hein. Regarde en Ligue 1, regarde en Ligue 2, et bah. En Angleterre. L'année dernière, Dortmund qui a eu un peu chaud quand même. Ça peut aller très très vite. La Juve qui s'est fait peur en début de saison, bon là, a remonté la pente quand même, puisqu'elle est 7ème. Mais ça peut se jouer très 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 vite.
Et puis s'ils devaient descendre dans le Championship, ils devraient tout reconstruire. Enfin, tous les joueurs Hazard, Diego Costa,
ils devraient abandonner du moins le projet de nouveau stade.
Peut-être que même Abramovich partirait peut-être aussi.
Oh, il revendrait certainement le club. Ou alors le garder et. Okay. À voir.
Vous êtes sérieux là en disant que Chelsea va descendre?
Toutes les hypothèses sont possibles.
En Angleterre. Et Chelsea est trop fort pour descendre en.
L'Angleterre, c'est le championnat de. Où tout est possible. Que le petit peut battre le gros. Bah, après tout, pour que. Si ce championnat est si spectaculaire, bah, ce serait spectaculaire de voir Chelsea descendre. Après tout. Ça ne ferait que renforcer les droits TV de la première ligue, je pense.
Eh ben, merci de nous avoir écoutés sur 87.9 FM sur fréquence sillée. L'émission Parle en foot. Merci Dylan et Enzo. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.